La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h.
Vous allez parler dans La tête au carré, Mathieu Bidard, du plus grand serial killer de l'univers.
Absolument, le chat.
Le chat.
C'est la raison pour laquelle nous avons un fox terrier d'ailleurs en studio.
Voilà,
cet après-midi. Il s'appelle Jedi. Et c'est le chien de notre invité vétérinaire. Voilà.
Et bah, tout va bien.
Qui faisait des roulades pendant votre flash. À tout à l'heure. Merci, Laetitia. C'est aujourd'hui l'animal domestique préféré des Français, mais aussi également l'un des pires prédateurs au monde. Vous ne le saviez peut-être pas, mais votre adorable matou qui vous réclame caresses et boîtes de ronron en vous faisant la danse du ventre tue chaque année des milliards d'animaux, un véritable désastre écologique. Et c'est le dossier cet après-midi de l'émission pour comprendre à la fois le comportement du chat, mais aussi son impact sur la nature. On en parle ensemble avec vos messages, vos témoignages. Vous nous rejoignez bien sûr sur franceinter.fr et sur le mot-clé « l'attaque ». Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, on s'intéresse aujourd'hui aux probiotiques.
Oui, on va se poser la question de leur efficacité, très loin d'être démontrée. On fait le point dans un instant avec deux nouvelles études.
Et c'est Fanny Boyon qui réalise cette émission préparée par Irène Menahem.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Villard.
Voilà un félin qui fait partie de notre quotidien, le chat, dans le dossier de l'émission dans un instant. Et je salue mes invités, le vétérinaire comportementaliste Claude Beata et l'écologue Roman Pavis. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et bienvenue Claude Beata. Pourquoi a-t-on donné cette place au chat dans nos foyers? Pourquoi est-ce qu'on aime tant cet animal aujourd'hui?
Il y a tellement de raisons qui fait que le chat a un tel succès. Il faudra s'interroger là-dessus parce qu'on est le seul pays, quand même. On est 13 millions de chats pour 7,5 millions de chiens.
Ouais.
Aux États-Unis, 90 millions de chats pour 78 millions de chiens, c'est pas la même différence. La France est vraiment le grand pays du chat.
Roman Pavis, vous avez mené avec le Muséum un programme de science participative avec les propriétaires de chats. Qu'est-ce que vous cherchiez exactement à savoir?
Alors, nous, en tant qu'éthologues, ce qui nous intéresse, c'est de considérer le chat comme un des éléments des écosystèmes parmi les autres. On sait qu'il y en a effectivement 13, 14 millions. Beaucoup d'entre eux entretiennent des relations avec leur environnement, lesquels, notamment via des phénomènes de prédation. On sait que l'impact des chats peut être dévastateur dans certains écosystèmes, sur certaines îles notamment. Qu'en est-il en France? On sait que les chats sont très abondants, peut-être même les carnivores les plus abondants de France devant d'autres représentants de la faune sauvage.
Ouais, et bien vous allez nous donner quelques résultats justement de cette étude avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission. Faut-il prendre des probiotiques? Eh bien, c'est la question aujourd'hui posée à la une de la science, Axel.
Oui, Mathieu, mais d'abord une petite page de publicité.
Quand on est ballonné, on se sent comme une petite chenille rondelette. Heureusement, il y a Provalid Probiadestis, le probiotique spécialement contre les flatulences. L'efficacité de Provalid Probiadestis est cliniquement prouvée.
Même la chenille.
Oui Mathieu, booster ses bonnes bactéries, rééquilibrer sa flore intestinale, ces phrases on les entend de plus en plus et l'idée des probiotiques semble excellente sur le papier mais reste à savoir si ça marche, quand est-ce que ça marche et pour qui. Deux études parues la semaine dernière montrent qu'on est peut-être allé un petit peu vite en besogne au sujet des probiotiques et pour en parler nous recevons le microbiologiste Marc-André Sellos, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à vous.
Alors vous êtes chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle, professeur à l'université de Gdansk, c'est en Pologne. Alors ces deux travaux parus la semaine dernière dans la revue Cell sont signés de la même équipe israélienne et le moins qu'on puisse dire c'est que ces chercheurs ne démontrent pas l'efficacité des probiotiques.
Oui, alors effectivement ils ont administré des probiotiques soit à des gens sains, comme vous et moi, soit à des gens qui sortaient d'une antibiothérapie, donc d'une application d'antibiotique qui avait réduit considérablement la diversité de leur flore, et ils ont regardé deux choses. Est-ce qu'on retrouvait les probiotiques dans les selles? Et ça, on les retrouve toujours, ils survivent au passage. Est-ce qu'on les retrouve dans le tube digestif? Et là, la réponse est pas toujours. L'idée de ces probiotiques, c'est d'appliquer des souches de bactéries que l'on pense favorables pour aider notre microbiote, comme on dit, l'ensemble de nos microbes, à fonctionner mieux. Et là, il y avait un mélange de 11 souches, généralement utilisées comme des lactobacilles, par exemple.
Mais alors, les probiotiques, on en trouve en parapharmacie, on en parle beaucoup, mais ça veut dire qu'on n'a pas encore vraiment testé leur efficacité, leur maintien dans le tube digestif?
Et non, ici, la pratique a précédé un petit peu l'analyse des conséquences. Et c'est vrai qu'on en voit beaucoup, mais c'est de la parapharmacie, dirais-je. Il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché derrière. Il y a que le bactéol et l'ultra-levure qui bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché. Les autres ne sont pas à proprement parler des médicaments. Et c'est vrai que même s'il y a des choses sérieuses, souvent, on n'a pas d'analyse de est-ce que ça reste et qu'est-ce que ça fait. Et d'ailleurs, dans l'étude, là, ils font un effort pour regarder qu'est-ce que ça fait. Ils regardent comment s'expriment les gènes de l'organisme après l'application des probiotiques. Et le résultat est assez étonnant. C'est que quand on administre ça à des gens qui n'ont pas de symptômes, bah, ça passe dans les selles, mais ça ne s'installe pas.
Donc ça traverse.
Alors, il y a quelques personnes chez qui ça s'installe, d'autres pas. Et en fait, ça dépend de quels microbes ils ont dans leur organisme. Ça prédit le résultat de savoir si ces probiotiques vont s'installer ou non. Quand je dis que ça s'installe, c'est que ils font des prélèvements directement dans l'intestin. Mmh. Pas simplement ce qui sort. Et par contre, après une antibiothérapie, alors quand on prend des antibiotiques, ça détruit le microbiote intestinal. Et là, on voit que ça reste. Mais ça reste tellement bien que le microbiote habituel, normal, et l'expression habituelle des gènes du tube digestif ne revient pas. Jusqu'à 5 mois de blocage pour le retour à la normale.
Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? J'ai envie de dire, comment il faut imaginer l'arrivée de nouvelles bactéries en nous via une gélule?
Alors, soit il y a déjà du monde, c'est déjà peuplé, et là c'est la guerre. S'installer ou dans un endroit où il y a déjà des centaines, si ce n'est plusieurs centaines d'espèces qui sont installées et qui mangent tout ce qui est disponible, qui occupent tous les espaces, c'est pas facile. Et ce que nous racontent ces travaux, c'est qu'en général, ça ne marche pas.
Donc c'est la guerre des bactéries, c'est ça?
De toute façon, c'est partout pareil. Il faut se faire une place au soleil. Hein. Alors là, c'est pas au soleil, c'est une place dans le tube digestif.
Les places sont chères.
Le fait qu'on soit tous différents fait qu'il faudrait tester tous les types de personnes avant de savoir quel microbiote ou quel probiotique marcherait pour tout le monde.
Alors effectivement, nous sommes tous différents par les microbes que nous contenons. Et des fois, certains contenus du tube digestif permettent quand même l'installation des probiotiques. Il y a un certain nombre de patients chez qui ça s'installe, d'autres pas, et ils diffèrent par les microbes résidents. Et ça veut bien dire que c'est les microbes qui sont là qui vont autoriser ou non les probiotiques à s'installer. Et ça veut aussi dire, comme vous dites, que nous différons par rapport aux probiotiques. Mais j'allais dire, c'est vrai de tous les médicaments. Un médicament donné n'a pas non plus le même effet sur n'importe quel patient.
Mais quelles sont les questions qu'il faut se poser maintenant? Parce que on parle beaucoup de la révolution de la médecine basée sur les probiotiques ou sur la modification du microbiote. Avec ce genre d'études, on voit que c'est très compliqué.
Ah oui, c'est compliqué. Vous savez, il n'y a pas de doute, il y a là un outil prodigieux pour l'avenir. On sait bien aujourd'hui que le microbiote, hein, les micro-organismes qui nous peuplent, nous défendent, même sur la peau, ou dans le nez, ou dans le vagin. L'homme est défendu par ces microbes, ces microbes l'aident à digérer, mais ils ont aussi des rôles en émettant des substances qui vont modifier le fonctionnement du système immunitaire, modifier le développement de l'enfant, modifier également l'humeur. Bon, ça c'est une chose établie. Maintenant, manipuler ça, ça soulève de grands espoirs, mais c'est comme tout, il va falloir du temps pour mettre au point. Souvent je raconte l'histoire de la découverte de la radioactivité. Tout le monde est tellement enthousiasmé par cette énergie qu'on a commencé à faire des poudres pour les femmes ou des rouges à lèvres radioactifs.
Quelle bonne idée, oui.
Qu'on a vendu dans les années 20 parce que c'était plein d'énergie, n'est-ce pas? Bon, à l'usage, il s'est avéré que le merchandising, pour prendre un petit terme moderne, avait précédé la réflexion et la sérénité de la recherche. C'est une voie absolument prometteuse, mais elle prendra du temps avant d'être éprouvée techniquement, technologiquement.
Alors, Marc-André Sellos, parmi les autres voies, ces chercheurs israéliens, ils en testent une, c'est l'autotransplantation. Je vous laisserai expliquer ce que c'est, mais en tout cas, ça marche.
Alors justement, après antibiothérapie, il y a un petit lot des patients qu'ils étudient à qui ils vont donner tout simplement des bactéries qu'ils avaient préalablement isolées de leur intestin. Et donc, ils avaient congelé, puis ils les ressortent et ils les leur redonnent après l'antibiothérapie. Et eux reviennent très vite à l'état de fonctionnement normal, que ce soit en termes de quelles bactéries sont présentes ou de quels gènes s'expriment dans les cellules du tube digestif. Et ça, c'est une voie d'avenir, je pense. Il y a actuellement une start-up qui développe ça par rapport aux chimiothérapies, qui détruisent aussi le microbiote. Et cette start-up vous propose de mettre de côté votre microbiote avant le traitement pour le récupérer juste après le traitement et revenir au plus vite à un fonctionnement normal du point de vue de ce microbiote. Ça, c'est prometteur, oui.
Marc-André, on vend toujours ces yaourts avec des probiotiques ou pas là? Ça se vend toujours dans le commerce?
Ouais, ouais.
Ça sert à quelque chose?
Alors, justement, ça, c'est pas vraiment ce qu'éprouve, ce que travaille cet article, mais l'idée, c'est qu'il est probable que selon les gens, ça s'installe ou non. Mmh. Et la vraie question, c'est quand ça s'installe, est-ce que la place que ça prend est mieux prise par ce qui s'installe que par ce qui pourrait s'installer ou ce qui était là avant?
Donc, on ne sait pas.
Eh bien, ça, c'est la science, de savoir dire à un moment, on ne sait pas. Visiblement, ce n'est pas toute l'activité commerciale.
Merci beaucoup. En tout cas, Marc-André Sellos, vous qui êtes également l'auteur de ce livre « Jamais seul, ces microbes qui constituent les plantes, les animaux et les civilisations » et qui est sorti aux éditions Actes Sud. Merci d'être venu commenter cette publication, ces deux publications. Et Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, combattre le gel par le gel. Lorsqu'il s'agit de dégivrer sa voiture avant de partir, le gel est simplement agaçant. Mais lorsqu'il s'agit de dégivrer la carlingue entière d'un avion avant chaque décollage, la lutte contre le gel consomme chaque année d'énormes quantités d'antigel chimique. Une équipe de chercheurs vient de mettre au point un système très ingénieux pour combattre justement le gel en griffant une surface d'aluminium avec un motif de rayure très particulier. Ils empêchent 90% du gel de se former à sa surface. Une étude qui pourrait révolutionner l'aviation et faire du bien à l'environnement. La plus vieille bière du monde pourrait avoir 13 000 ans. Des indices découverts dans la grotte de Rakefet en Israël, où vivait le peuple natoufien, laissent penser qu'il était peut-être le premier brasseur de l'histoire. Des mortiers contenant des traces d'amidon, des résidus de fermentation, indiquent que des graines ont été broyées puis traitées lors d'un procédé rappelant la brasserie. Si cette découverte est confirmée, elle serait la plus vieille trace d'alcool artificiel à ce jour, mais elle serait aussi antérieure à l'agriculture. Et puis pour terminer, une vidéo étonnante qui nous montre comment les plantes réagissent aux agressions extérieures. Si vous pincez une feuille d'un bégonia ou poser dessus une goutte d'acide, toute la plante va réagir et mettre en place son système de défense. Pour la première fois, des chercheurs ont filmé, grâce à un procédé de fluorescence, la propagation dans la plante du signal électrique émis au moment de l'agression. Une vidéo où l'on voit un plant de chou s'illuminer entièrement en moins de 2 minutes après avoir été attaqué par une chenille. Et cette vidéo est disponible sur la page Facebook de l'émission. Allez, on parle des chats dans un instant. Comportement et prédation.
Down.
Miles Kane avec Loaded à l'instant.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Voilà, le chat, ce félin domestique, ce prédateur dans le dossier de la tête au carré cet après-midi avec Claude Beata. Vous êtes vétérinaire comportementaliste et co-auteur avec Éric Baraté et Vinciane Després d'un ouvrage qui s'appelle Chien-chat, pourquoi tant d'amour, qui était sorti chez Belin, si ma mémoire est bonne. Et puis Roman Pavis, vous êtes écologue chargé du projet Chat domestique et biodiversité avec la Société française pour l'étude de la protection des mammifères. Et les auditeurs donc nous rejoignent déjà avec des questions, des messages sur franceinter.fr, sur la page Facebook de France Inter et sur Twitter. Parlons d'abord du prédateur avec vous, Roman Pavis, car le chat est un véritable serial killer. On est loin d'imaginer à quel point d'ailleurs il peut dégommer à tout va, hein. C'est incroyable quand même.
Alors, il dégomme à tout va, mais avec des situations très contrastées cependant, selon qu'on se place dans des écosystèmes très simples ou très sensibles. Certaines îles, l'Australie par exemple, avec des populations de petits marsupiaux qui sont particulièrement sensibles, ouais. Ou selon qu'on parle des écosystèmes continentaux, et a fortiori de l'Europe occidentale. Ouais. Nous, on s'est penché avec le muséum sur les cas de l'Europe occidentale et de la France. On a découvert effectivement des phénomènes de prédation majeurs. Si on fait des extrapolations, on arrive, comme vous disiez tout à l'heure, à des dizaines de millions, des centaines de millions de proies. Tout taxon confondu, donc des oiseaux, des reptiles, des petits mammifères, etc. Après, la question de l'impact de ces prélèvements sur la dynamique des populations, elle est encore plus compliquée.
Ouais, c'est pour ça que vous avez souhaité faire une étude pour essayer d'en savoir plus justement sur l'impact du chat sur la biodiversité.
Tout à fait. Alors l'avantage, c'est que le chat domestique, le chat de compagnie, hein, a cette propension à ramener au domicile une partie des proies qu'il va capturer.
C'est ça, ça c'est pratique. Quand il amène ça sur le tapis, on sait ce qu'il mange.
Pour nous, en tant qu'écologues, c'est fabuleux. C'est ça. Ça nous évite de regarder dans les crottes, ça nous évite de regarder dans les estomacs. Et ça nous a permis surtout de demander aux propriétaires de chats d'être les premiers observateurs de leurs chats et de nous dire, mais finalement, qu'a ramené mon chat à la maison aujourd'hui? Ouais. Ça a très bien marché. On a des milliers de personnes qui nous ont témoigné pendant 2 ans.
Combien? Plus de 40 000, hein, c'est ça?
Alors, on a à peu près 50 000 observations pour 3 à 4 000 observateurs différents. Donc 3 ou 4 000 chats suivis dans la durée. Et on a découvert plein de choses. On a découvert que la prédation par les chats était très diversifiée. Plus de 200 espèces différentes. Donc pas seulement les rats, les mulots, les campagnols, mais bien plein de taxons qui sont concernés. On a découvert que la proportion de ces différents taxons était aussi intéressante parce qu'on a à peine 50% de rongeurs indésirable, hein. Indésirable avec beaucoup de guillemets.
Pardonnez-moi, c'est quoi un taxon exactement dans votre langage?
Un groupe d'espèces. Ouais. Voilà, là je parle de groupe d'espèces, donc les souris, les campagnols, les rongeurs. Donc on a découvert que ces fameux rongeurs indésirables, donc si on peut mettre dedans par exemple le rat, les campagnols, certains mulots, etc., représentaient moins de 50% du total, le reste étant d'autres mammifères, des musaraignes, des loirs, des lérots, des reptiles, des oiseaux, etc. Donc ça questionne en termes de diversité et ça questionne également en termes d'impact à moyen terme, vu qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a aussi de plus en plus de chats. C'est un élément de l'écosystème qui devient de plus en plus présent. Alors il ne s'agit pas de dire que c'est bien ou que c'est mal, mais simplement en termes d'impact, ça nous questionne de quelle façon nous, en tant qu'écologues.
Alors justement, on va écouter un reportage qui a été réalisé au moment du lancement, enfin quelques mois après, sur les premiers résultats, et on écoute justement ce qui s'est passé sur les tapis.
À première vue, Nesquik n'a pas l'air bien dangereux, mais ce mâle de 2 ans est un chasseur redoutable. Comme le montrent les trophées, rapporte à sa maîtresse.
Donc là, vous avez un petit mulot. En l'occurrence, c'est des mulots, mais en général, on a aussi des musaraignes. Il est plutôt branché rongeur, mais de temps en temps, on a aussi des oiseaux.
Des oiseaux, des rongeurs, ou parfois même des lézards. Les chats s'attaquent à tout type de proie. Pourtant, les mécanismes de la chasse restent un mystère pour les scientifiques. Nesquik est équipé d'un GPS et d'une caméra. Ils permettent de suivre ses mouvements à la trace jour et nuit. Et surtout, de filmer ses exploits. Comme sur cette vidéo où il s'en prend à un bébé mulot. Depuis 2 semaines, des dizaines de propriétaires participent à cette étude.
Voilà, donc ce qu'on peut trouver effectivement, ça vous étonne pas Claude Beata, cette diversité finalement d'aliments chez le prédateur
chat?
Non,
pas du tout, c'est ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce que dit Roman sur le côté, est-ce qu'on connaît vraiment l'impact? Parce qu'il y a l'air d'avoir une espèce de fantasme qui se développe en ce moment, autant je suis persuadé que sur des milieux confinés, sur des îles, comme vous disiez, même si l'Australie
c'est une grande île.
Mais ça peut jouer, et puis avec moins de biodiversité, autant effectivement, est-ce qu'en Europe occidentale, est-ce qu'on doit changer les comportements des personnes qui laissent sortir leur chat pour leur interdire pour...
Ouais. Est-ce que ça, vous êtes déjà en mesure de répondre à ce type de questions?
Alors, c'est une vraie question. Et ça dépend assurément des espèces et des milieux dont on parle. Le chat est présent depuis très longtemps en France. Clairement, il n'a jamais causé la disparition d'une espèce pour le moment, contrairement à d'autres écosystèmes beaucoup plus simples. Ce qu'on sait également, c'est qu'il y a une dynamique en faveur du chat, donc qui nous pose des questions de plus en plus importantes. Si on regarde la courbe de possession depuis les années 66, elle est quasiment exponentielle. Alors, mais effectivement, selon qu'on se place dans des écosystèmes naturels ou semi-naturels, robustes, diversifiés, avec d'autres prédateurs,
c'est beaucoup de proies. C'est le cas de la France, par exemple.
Hein. Oui, et de certains endroits en France particulièrement. Où on a des proies qui ont coévolué avec des prédateurs presque tout aussi complexes que le chat, si j'ose dire. Effectivement, on peut penser à un impact qui est restreint. Par contre, si on se place dans des jardins, dans des parcs, dans des mosaïques de zones périurbaines, on a des écosystèmes qui sont déjà un peu plus sensibles, déjà plus simplifiés et plus vulnérables en termes de diversité. Et là, avec également une densité de chats qui peut être beaucoup plus importante. Dans ces milieux-là, quid de la prédation du chat? On sait, alors c'est difficile à observer, mais on sait que, par exemple, le lézard des murailles peut pâtir sur de très grands périmètres géographiques de la présence de chats et se trouver exclu de certaines zones.
Ben justement, Paul nous dit sur franceinter.fr, les chats sont de redoutables prédateurs, c'est bien connu. Là où les chats sont présents, les lézards sont absents. Vous connaissez ça, Claude Beata? Voilà.
Est-ce que d'ailleurs... parce que l'été, alors pour des chats personnels, l'été ne se nourrissait quasiment exclusivement de lézards et maigrissait beaucoup d'ailleurs, puisque c'est totalement indigestible pour le chat. Et donc...
Alors justement, est-ce que l'activité de chasse, c'est vraiment une activité importante pour le chat? Parce que quand on a un chat chez soi, en ville principalement, qui n'a pas l'opportunité d'aller chasser, est-ce que c'est un problème?
C'est une activité primordiale. Le chat a ce double statut de prédateur et de proie aussi. Et ça, il ne faut pas l'oublier pour vos auditeurs, parce que c'est son côté proie qui le rend souvent, lui, fragile et sensible à certaines affections. Mais son côté prédateur, même quand il vient d'appartement, en revanche, il faut bien dire qu'on peut le satisfaire. On peut le satisfaire avec des leurres de chasse. Tout le monde a joué avec des boules de papier d'aluminium, avec des petites souris, avec des
petites souris. Et ça peut remplacer la chasse, ça.
Tout à fait. Ce qu'il faut, c'est lui faire des activités où il cherche, où il quête, où il est à l'affût et où il peut attraper.
Ouais. Donc, Romain Pavis, on pouvait répondre en ligne, hein, puisque c'était sur Internet, cette séquence de sciences participatives avec toutes ces observations, 50 000 au total. Donc maintenant, il faut analyser les données. Alors, vous avez un sacré boulot, hein.
Oui, un sacré boulot. Donc, plusieurs dizaines de données. On se penche sur la composition spécifique. On se penche, comme j'ai essayé de dire tout à l'heure, avec le lien avec la géographie, le type de milieu urbain, pas urbain. On a aussi noté que quasiment deux tiers, voire les trois quarts des proies rapportées par les chats n'étaient pas consommés à l'issue de la capture.
Et alors, ça veut dire quoi, ça? Alors, c'est justement du jeu, a priori?
C'est justement ce que disait Claude, c'est qu'on est tout à fait sur un schéma de chasse récréative.
Ah oui.
Le chat de compagnie chasse, certes pour se nourrir, certes par instinct, mais il conserve également cet instinct de chasse par jeu. Il y a une expérience amusante qui a été faite dans les années 70 aux États-Unis, où on donnait, dans des conditions très contrôlées, à manger à des chats leur nourriture préférée. Et au milieu de leur repas, on introduisait dans la boîte un rat. Et systématiquement, tous les chats sont allés tuer le rat, l'ont laissé pour mort, et sont allés finir leur repas dans la gamelle.
Ouais.
Et le rat n'a pas été consommé non plus à l'issue de ce repas. Parce qu'on a ce mouvement, on a ce jeu, qu'on peut également totalement satisfaire, et dont on s'amuse beaucoup également en intérieur, avec des jouets, avec des séquences tout à fait ludiques.
Claude Beata.
Oui, alors je ne sais pas si c'est récréatif, j'ai l'impression que pour eux c'est vraiment obligatoire, enfin c'est quelque chose qui est primordial, hein, ce que vous racontez, où ils s'arrêtent de manger pour aller chasser, et puis mais ils ne consomment pas. Et alors la question que je me posais en vous écoutant, c'est qu'en fait vous ne voyez que ceux qui sont ramenés, c'est-à-dire il y a quand même beaucoup de chats qui chassent et qui consomment. Et qui consomment, c'est-à-dire tous ceux qui sont nourris pas tout à fait comme il faudrait ou pas tout à fait suffisamment, quand ils chassent, ils consomment.
Absolument. Alors on sait que effectivement, plus les chats sont libres ou laissés à eux-mêmes, plus ils vont consommer effectivement qu'ils vont attraper. Ouais. C'est logique. Ils consomment principalement des espèces, on va dire les plus appétantes, les plus comestibles. Donc beaucoup de rongeurs, les musaraignes par exemple, qui sont très musquées, ou les chauves-souris qui sont très osseuses, sont quasiment toujours laissés de côté. Aux États-Unis, justement, ils ont développé ce protocole de recherche avec des caméras pour pouvoir enfin faire la comparaison entre ce que le chat ramène au domicile et ce qu'il chasse dans l'absolu. Donc on peut éventuellement établir des espèces de ratios correctificatifs pour...
oui, parce qu'en plus, vous n'avez pas pu étudier les chats errants, évidemment.
Non, hein, on n'a pas pu.
Donc ça, c'est un des biais de l'étude. Parce que,
Sachant qu'en France, on a vraisemblablement des populations de chats errants qui sont bien moins abondantes qu'aux États-Unis ou en Australie, par exemple. Donc on a effectivement un énorme parc d'animaux de compagnie. Les chats errants, ils sont présents, hein, notamment en périphérie des grandes agglomérations, entre autres. Est-ce que le problème écologique qu'il représente est identique? Peut-être pas.
Donc là, vraiment sur l'impact écologique, pour le moment, c'est l'étude qui est en cours, sur l'analyse. On aura vraiment des conclusions un petit peu plus tard, parce qu'il faut le temps de voir de quelle façon, justement, ça peut avoir un effet. Hein.
Courant 2019, ouais. Notamment pour essayer de raccrocher ces données de prédation à ce qu'on sait des dynamiques des espèces proies. Parce que, aux États-Unis, on a dit récemment, les chats tuent, je crois, 20 milliards de micro-mammifères par an. Alors, c'est colossal.
Rien qu'aux États-Unis?
Oui. Ouais. Le chiffre a été produit avec sérieux. Hein. Il est certainement exact. Ceci dit, qui peut dire ce que représente 20 milliards de rongeurs à l'échelle
si
de populations qui sont très résilientes, qui sont très fécondes, etc. À l'inverse, moi, je suis peut-être plus inquiété, si j'ose dire, par des chiffres moindres, mais qui concernent des espèces, par exemple, de chauves-souris, qui ont des capacités de régénération des petits, de leur population, qui sont beaucoup plus faibles, avec un petit parent, etc.
Michel nous dit sur le site de l'émission, la présence du chat a en effet une répercussion destructrice sur l'environnement. Je fais partie d'associations qui veulent réguler leur présence par la capture d'animaux, leur stérilisation, la castration, pour les remettre dans leur environnement, ou en cherchant des familles d'accueil. Il est déplorable, dit-il, que nos élus ne prennent pas ce problème de régulation à bras-le-corps.
La castration, très mauvaise idée. Hein. Ouais. Pourquoi, quand je dis ça? Parce que quand on fait une castration, on augmente la motivation alimentaire. Donc les chats qui sont castrés, ils chassent encore plus. Ouais. Hein, donc c'est pas sûr que ça soit la bonne façon de réguler les choses. Mais je pense qu'on aura le temps d'en parler. Mais ce qui me paraît important, c'est qu'on est en train... Ma peur, ma crainte, c'est qu'on coince les gens entre... Si vous ne laissez pas sortir votre chat, vous êtes un mauvais propriétaire parce qu'un chat, ça a besoin de sortir. Et si vous laissez sortir votre chat, vous êtes une mauvaise personne parce qu'il va faire des attentats à la biodiversité. Et donc, il y a un moment, les personnes qui réfléchissent se disent bah, « je ne prends pas de chat ». Alors, peut-être il faut aussi réfléchir à ça, mais ça me paraît quand même dommage.
Ouais, mais il faut réguler les choses ou pas aujourd'hui, là, vraiment?
Il faut éduquer, je crois. Ouais. Il faut éduquer aussi pour pas laisser partir les gens dans les fantasmes sur le chat est en train de détruire la biodiversité. Franchement, je pense qu'en France, ce que dit Romain est passionnant. C'est pas le cas, en tout cas, on n'en a pas les preuves. Suivant les écosystèmes, il faut faire attention.
Allez, on se retrouve dans un instant avec les messages pour vous sur franceinter.fr et sur la page Facebook de France Inter.
Sous-marine dans le périscope. Tout, tout est pop. Pape et Poutine, pipe en full screen, les saintes comme les salopes. Tout, tout est pop. Le visage de Grégory ou la Joconde de Vinci. Tout, tout est pop. Que tu le préfères, Iggy, cru, bien cuit ou Satori. Passé puis s'en va. La vie est pop. Tout prend l'eau et on est cop. C'est pop. Paris, Texas, Paris, Hilton, dans le grand melting pop. Tout, tout est pop. Rock ou baroque, partout Bartok, Saint-Thérèse ou Saint-Trope. Cinémascope ou underground sous psychotrope. Tout, tout est pop. Ça se télescope non-stop dans le kaléidoscope. Tout, tout est pop. Tout est pop. Regarde autour de toi. Le monde est pop. Tout est pop, plus que tu ne le crois. L'amour. C'est plus en vain. La vie est pop. Tout prend l'eau et on est cop. C'est pop.
Because I think that's what art is. It's entertainment and pleasing people.
C'est pop. Can anybody be an artist?
Yeah, if you say one day I want to be an artist, you just decide to be an artist.
Regarde autour de toi. Le monde est pop. Tout est pop. Plus
leur époque. Tout est pop, tout passé puis s'en va. La vie est pop, tout prend l'eau et on l'écope. C'est pop. Tout est pop, regarde autour de toi. Le monde est pop, tout prend l'eau et on l'écope. C'est pop. C'est pop. C'est pop.
Et c'était Alain Chamfort.
La tête au carré.
Allez, t'emballe pas, Alan. Je sais qu'on vient de se réconcilier tendrement, mais de la ronronner...
Tu me prendrais pas pour...
Ça alors, un petit chat.
Aïe, 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 Shrek, il est armé.
C'est un chat, bougre d'âne.
Il a parlé minou, minou, minou. Viens me voir, joli minet. Allez, viens me voir, chez Toto.
Oh, il m'a crispé. Oh, vite, enlève-le-moi. Je suis le chat. Poté. Je vais le rentrer dans sa gouttière.
Ah, ah, ah.
À ton avis, Lan, qu'est-ce qu'on en fait?
Avec l'épée, on a ce qu'il faut pour le châtrer sur place. Shrek.
Oh, t'as pas de cœur, regarde le petit bonhomme. Non, franchement, bah, allez, on l'adopte.
Ah.
Oh, écoute-le, il miaoute.
Et il est mignon, en plus.
Voilà un extrait de Shrek 2 pour parler des chats, de leur comportement et de la prédation avec nos invités. Claude Beata, vétérinaire comportementaliste, et Roman Pavis, écologue avec ce projet Chats domestiques et biodiversité, donc pour la Société française pour l'étude et la protection des mammifères, avec les messages des auditeurs. Un groupe qui n'est pas cité par votre invité, dit Tobias, ce sont les insectes. Ma compagne et moi avons pu le voir, notre chat en train d'attaquer, voire croquer mantes religieuses, grillons et gros scarabées. Vous confirmez, hein?
Oui, je confirme. Nous, on a choisi de pas se pencher sur les insectes. Alors, les phénomènes de prédation existent, on a tous vu les chats jouer avec des papillons, des criquets, etc. Cependant, ça questionne nettement moins la question de l'impact. Les insectes sont beaucoup plus nombreux, avec des capacités de reproduction qui sont tout autres. Mm-hmm. Donc effectivement, on a des prélèvements, mais qui nous posent moins de questions sur l'avenir des populations d'insectes.
Voilà. Et certains chats, c'est ce que vous avez vu aussi, deviennent spécialistes de certaines proies en particulier?
Oui, alors ça c'est effectivement un élément de l'étude. Alors, quelque chose que vous connaissez déjà en Australie, mais on a effectivement des chats qui se spécialisent vers certaines proies, indépendamment de l'abondance locale des proies. Donc vous pouvez avoir, par exemple, beaucoup de mulots, beaucoup de musaraignes, et un chat qui va persister à chasser certaines espèces d'oiseaux ou certaines espèces de chauves-souris. Donc les chats se spécialisent simplement parce que, alors, soit par goût, entre guillemets, ou parce qu'ils ont repéré des accès de certaines proies qui sortent des bâtiments.
Et aussi, compétents sur ce...
Et tout à fait, qui peuvent développer des compétences spécifiques vers certains types de chasse en regardant des congénères ou en apprenant dès l'enfance avec la maman au moment de l'apprentissage de la chasse.
Claude Beata, le chat en Australie, c'est une affaire d'État là-bas quand même.
Ah oui,
la problématique.
Bien sûr.
De ce félin.
Le milieu confiné fait ça. Et puis il y a aussi le côté des groupes de pression, hein, de protection de la biodiversité, qui trouvent à un moment un chat émissaire, puisque là c'est pas un bouc, et bon, le pointer du doigt. Alors bon, c'est prouvé, mais voilà.
Il faut dire que ça fait assez longtemps que l'Australie est embêtée par les chats quand
c'est
même.
C'est ça. Hein. D'où la question de la régulation, qui est une question importante de la population, mais avec une, franchement, pour la France, pas cette sensation de menace aussi forte.
Alors donc, en Australie, on construit carrément des endroits, des sanctuaires, hein, pour protéger justement les proies, espèces, les espèces menacées.
Bien sûr. Après, je crois que ça, c'est important aussi, hein, d'essayer de conserver la plus grande biodiversité. C'est quelque chose où toutes les initiatives sont bonnes, à condition, une fois de plus, qu'elles ne désignent pas une espèce de coupable idéal.
Ah, mais là, c'est violent. Enfin, en Australie, quand même, Roman Pavis, là, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Hein.
Alors, en Australie, il faut aussi se mettre à la place des Australiens, avec leur faune patrimoniale très sensible, notamment de petits marsupiaux très vulnérables. Ils auraient perdu, a priori, plus d'une vingtaine d'espèces du simple fait du chat. Ce qui est assez normal. La faune, là-bas, n'a jamais connu de carnivores pendant toute son évolution. Elle se trouve nez à nez avec le chat, elle n'a pas coévolué avec lui, elle n'est pas capable de s'en prémunir. Donc des dégâts très importants. Cette barrière anti-chat de plus de 44 km de longueur, je crois, une clôture électrifiée pour créer un sanctuaire pour certaines espèces. Alors, ce qui est curieux, effectivement, c'est qu'on vient à artificialiser des paysages pour se prémunir d'une menace qui pourtant est biologique et liée au fonctionnement des écosystèmes. En Australie, on n'a pas trouvé la solution. On a beaucoup tiré les chats, on a essayé des campagnes de stérilisation, maintenant on essaie de créer des zones d'exclusion. Il n'y a pas que le chat en Australie aussi, hein, il faut le dire, il y a le rat, le lapin, le renard roux. un continent très sensible de ce point de vue-là, où effectivement, le chat a un impact considérable.
Claude Biatta, hein? Donc on tire dans les chats.
Oui, mais partout, de toute façon, les animaux, que ce soit chien ou chat d'ailleurs, commencent à poser un problème de surpopulation ou d'impact sur le reste, et surtout sur le côté natif de la région, eh bien ils sont chassés, pas gentiment, hein, ça c'est sûr.
Alors la LPO a testé quelques dispositifs pour la France, hein, pour essayer d'éloigner les chats, des nids par exemple, alors les ultrasons, les plantes répulsives, les clochettes hein, qu'on installe autour du cou des chats évidemment, puisque les proies entendent la clochette et s'en vont. Il y a des choses plus ou moins efficaces, ou les faire sortir le matin ou le soir.
La LPO a fait un poster qui me va bien là-dessus, avec des propositions, avec la clochette, avec des heures de sortie, quelque chose qui n'est pas du tout dans le sens de l'extrémisme, de dire il ne faut plus laisser sortir les chats parce que ça serait ridicule, mais avec quelques conseils pour les propriétaires. Souvent, les propriétaires qui ont des chats, qui sont des gens qui sont amoureux de la vie, sont sensibles au fait que le chat risque de faire des dégâts et sont tout à fait prêts à adopter des conduites raisonnables qui permettent, si on sait qu'on a un grand prédateur, hein, si on sait qu'on a un chat qui est devenu très efficace, qui commence à faire des dégâts, bah, lui mettre une clochette, ça va beaucoup aider les oiseaux et d'autres.
Il y a un dispositif qui s'appelle Stop Minou avec des collerettes métalliques qu'on pose sur les arbres. C'est quoi ce truc exactement?
Juste, ça empêche le chat d'exercer ses capacités d'athlète, de grimpeur, etc. Puisque, en fait, ça lui permet pas de passer par-dessus. Hein. C'est une espèce de collerette qu'on met autour des arbres. Donc, effectivement, il y a un marché.
Stop Minou, voilà Stop le nom. Minou.
Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que les propriétaires de chats sont effectivement les premiers à ressentir un dilemme. Parce que, certes, ils aiment les chats, mais ils aiment aussi beaucoup les oiseaux. Je crois que c'est pas la peine d'opposer les uns aux autres, au contraire, mais plutôt de travailler avec le monde de la recherche, avec les associations de protection de la nature et aussi avec les associations de protection des animaux, qui sont tout à fait compétentes dans ce domaine-là, pour trouver, on va dire, des moyens d'assurer l'harmonie, la cohabitation entre cette faune sauvage qui est présente, et cette faune domestique qui est aussi de plus en plus présente. Le stop minou, pour protéger une nichée dans un arbre, un nichoir, une mangeoire pendant l'hiver, par exemple, sont des bonnes idées. La clochette, à laquelle sont assez sensibles les micro-mammifères qui ont une oreille fine, ça fonctionne bien. Ouais. Pour les oiseaux, on a aussi des dispositifs, ce sont des colliers de couleurs, des collerettes presque relativement épais, qui permettent aux chats de se faire voir de leur proie, d'être moins efficaces. Et des conseils simples. Et également, concernant, si vous avez repéré des phénomènes de prédation à des heures plus sensibles du jour et de la nuit, essayez d'adapter les allées et venues de votre chat. Dans certains cas, avec beaucoup de chats errants, privilégiez la stérilisation, des choses comme ça.
Il y a maintenant des systèmes de trappes, de chatières, qui ne s'ouvre qu'en fonction de la puce du chat et qu'on peut régler pour s'ouvrir qu'à certaines heures, donc qui permettent tout à fait ça, hein, donc ça c'est possible. Et puis je crois qu'il faut aussi rassurer les gens sur le fait, si votre chat ne peut pas sortir, vous pouvez lui permettre d'assouvir ses besoins de prédation, de chasse par des jeux, etc. que vous pouvez faire à l'intérieur. Et s'il peut sortir, vous pouvez protéger le reste de la nature.
Nicole nous dit sur Facebook, j'aime beaucoup les chats, mais je constate dans mon quartier que nous sommes envahis de chats errants, donc pas vaccinés, pas soignés, qui se reproduisent dans les haies ou dans les tas de bois. Les gens les nourrissent, mais ne prennent pas la responsabilité de les adopter. Bah, c'est un problème, ça, quand même.
Ça, c'est toujours le même problème de la bonne personne, la bonne âme qui vient nourrir les chats, mais qui, quand on voit la capacité des chats à se reproduire, c'est évident qu'il faut y faire très attention. Et en même temps, il y a plein d'initiatives intelligentes qui font stériliser les chats et les remettre en place. Parce que ce qui a été essayé aussi en France, ça a été par exemple à certains moments de vider des zones entières, hein, des biotopes, des chats. Donc on les capturait et on les faisait disparaître. Si on en les enlève tous, il y en a d'autres qui viennent. Alors que si on les prend, qu'on les stérilise et qu'on les remet en place, la niche écologique est occupée et c'est beaucoup plus stable.
Avant de poursuivre notre discussion, on va faire une pause fox terrier. Claude Biatta, comment va Jedi, votre chien?
Jedi est là. Il dort sur ses deux oreilles, voilà, puisqu'on parle de chat, ça ne l'intéresse pas.
Jedi, voilà, il dort, il est tranquille, hein. Tout va bien. Alors vous êtes psychiatre pour animaux, comme ça. C'est comme ça que vous vous présentez?
Maintenant, de plus en plus, oui, on a un diplôme universitaire de psychiatrie vétérinaire à Lyon, dont la quatrième session va commencer en octobre. Et oui, le médecin du cœur, c'est le cardiologue, et il y a des cardiologues vétérinaires, il y a des dermatologues vétérinaires, et il y a des psychiatres vétérinaires.
Et vous utilisez aussi des molécules comme les psychiatres?
Tout à fait. À partir du moment où il y a un état pathologique, à partir du moment où il y a une souffrance de l'animal, on utilise tous les moyens, donc toujours la thérapie comportementale, et très souvent on l'associe avec le médicament nécessaire.
Bon, on y revient avec vous, on en parle dans un instant, et puis on répond aux messages nombreux des auditeurs qui adorent les chats, visiblement, sur franceinter.fr.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte cœur. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin là je tendre, nul ne peut nous entendre. Dans mon jardin d'hiver.
Et le jardin d'hiver d'Henri Salvador.
Mais vous êtes un chat?
Oui, savez-vous vous tenir sur la tête?
La tête au carré.
Voilà, avec une de mes invités, Claude Beata, Roman Pavis, et vos questions sur Facebook, sur franceinter.fr, pour évoquer donc les chats prédateurs et évidemment compagnons de notre vie quotidienne. Ça fait combien de temps d'ailleurs qu'on le domestique, qu'il a été domestiqué, pardon, le chat, Claude Beata?
À peu près 9000 ans avant Jésus-Christ, hein, donc au moment où on arrête d'être des chasseurs-cueilleurs et on devient des cultivateurs.
Ouais. On se sédentarise, on a besoin du chat.
Et on a besoin d'un auxiliaire pour protéger
les stocks de nourriture,
etc. Bien sûr.
Alors, beaucoup de messages des auditeurs, parce qu'on peut parler évidemment beaucoup comportement, vous qui êtes vétérinaire comportementaliste. D'abord, Laurent nous demande comment quantifier l'intelligence d'un chat. Mon chat qui a vécu dans la rue et a connu la faim est obsédé par la recherche de nourriture. Toute son attention est dédiée à cette quête. Il a compris par exemple comment ouvrir les loquets des placards. Alors, il y a deux choses dans cette question. Oui. Hein. Il y a la question de la nourriture et la question de l'intelligence.
Pour le moment, on n'a pas de questionnaire QI adapté au chat et validé. Hein. Oui. Mais on est sûr d'une capacité cognitive assez impressionnante. Dans la mesure en plus où ce double côté proie et prédateur, lui demande d'avoir toutes les capacités d'un prédateur dans la stratégie de chasse, etc. Et toutes les capacités d'une proie dans la mémorisation, notamment dans le fait de se souvenir de qu'est-ce qui peut être dangereux. Et donc, ils sont souvent étonnants.
Alors, justement, vous écrivez dans ce livre « Au risque d'aimer hein, », qui est sorti en poche chez Odile Jacob avec la préface de Boris Cyrulnik. Le chat est à la psychologie animale ce que l'ornithorynque est à la classification zoologique, une énigme. Oui. À ce point-là?
Alors, je crois que ce n'est plus vrai, vous voyez. Je crois que c'est de moins en moins vrai, avec des travaux comme ceux du Muséum, de Roman Pavis, avec notre collectif de groupe de travail sur le comportement. On a sorti un bouquin de 600 pages sur les troubles du comportement du chat, avec 200 pages sur le chat normal et 400 pages sur la pathologie comportementale. Donc le chat, c'est inconnu, c'est plus vrai.
Ouais. Hein,
alors, dans la tête de beaucoup de personnes, il reste mystérieux et on ne voudrait surtout pas casser le mythe. Mais quand même, maintenant, on le connaît bien, on le connaît à la fois fois dans ses faiblesses, dans ses forces, dans ses capacités, et de mieux en mieux dans son comportement.
Et alors le chat qui passe ses journées à chercher de la nourriture, l'obsédé de la bouffe.
Vous savez, en trouble du comportement, on est toujours aussi très attentif à la médecine. Un chat qui a vraiment une motivation très importante alimentaire, je ferai d'abord un certain nombre de recherches aussi sur le plan physiologique, voir déjà s'il n'y a pas un prédiabète ou quelque chose comme ça qui le pousse. Ah oui. Hein, donc ne pas oublier ça. Et après, c'est évident que pour un animal castré, la motivation alimentaire, surtout quand il a souffert de la faim, elle peut être très importante.
Alors les questions des auditeurs, Noémie qui nous dit « J'attends un bébé et un de mes chats, la femelle, vient couver mon ventre en ronronnant. Est-ce que ce comportement vous étonne ?»
Je l'ai connu personnellement.
Quand vous étiez enceinte.
Voilà, c'est ça. Quand ma femme était enceinte, je l'ai connu. C'est vraiment quelque chose de que les chats sont... ont la conscience, je veux dire comme ça, quitte à me faire taper dessus, ont la conscience du vivant qui est en train de se passer dans le ventre de la personne. Mmh. Et ce qui est étonnant, c'est que pour des chats, ce qu'on peut dire aux auditeurs, pour des chats qui sont très peu sociables, qui n'aiment pas les humains, sauf souvent un seul, eh bien, l'enfant qui naîtra de cette personne d'attachement, il aura le même statut qu'elle. D'accord ? C'est-à-dire qu'il ne sera pas considéré comme un étranger. Parce qu'il va porter au début toutes les marques d'odeur, toutes les marques de phéromones qui seront exactement celles de la mère. Il aura le même statut que la mère.
Allez, d'autres messages pour vous, Isabelle, qui nous dit « Mon chat devient agressif pour avoir des câlins, attaque en traître, morsure, griffure. Il est alors obsédé par mes mains. Chaton qui n'a pas eu une éducation complète par sa mère. Dans ces cas-là, je l'isole, je vaporise de l'eau ou détourne sa colère avec un jeu. Autre chose à me proposer ?» demande Isabelle.
Alors, premièrement, jusqu'où vont les agressions ? Est-ce que les agressions sont vulnérantes ? Parce que dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à traiter et à traiter médicalement. Après, le côté sournois, traître du chat et tout, il a des stratégies de chasse, d'attaque qui peuvent lui donner cette impression-là, mais qui peuvent donner cette impression-là au propriétaire, mais ce n'est pas le cas. En revanche, il faut le pistolet à eau, le pulvérisateur, c'est une bonne chose, puisque ça représente comme un autre chat qui soufflerait, donc qui tiendrait à distance, sans être douloureux et sans être. Donc c'est une bonne situation. Après, on connaît des chatons qui n'ont jamais eu de contrôle dans leur développement par une mère chat qui a pu leur apprendre, etc. On les appelle des ascésiques actuellement, c'est-à-dire des chats qui n'ont pas la capacité à établir des relations, ils ne contrôlent pas leurs griffes, ils ne contrôlent pas leurs dents. Là, c'est traitement obligatoire, avec de très bons résultats.
Véronique sur Facebook dit « Je m'étonne du commentaire de votre invité qui dit que la stérilisation n'est pas une bonne idée. Est-ce qu'un chat qui se reproduit de manière incontrôlée et sa progéniture ne pose pas plus de problèmes qu'un seul chat avec une consommation un peu supérieure à la normale ?»
Alors, Véronique n'a pas vu mon sourire pendant que je disais ce que je disais.
Il faut regarder la vidéo.
Voilà, que pour ce chat-là, pour celui qu'on va castrer, de sûr, il ne va pas moins devenir prédateur, il va devenir plus prédateur. Il y a même eu des études qui ont montré que sur les tests pour trouver de la nourriture, les animaux stérilisés étaient supérieurs aux animaux non stérilisés. Donc, il y a une vraie motivation alimentaire augmentée. Bien sûr, après, sur le contrôle de la population, c'est une évidence.
Roman Pavis.
Il y a plusieurs choses. C'est que la stérilisation va avoir l'avantage de faire diminuer le territoire du chat, qui va potentiellement moins se mettre en quête de femelles, etc. Donc, on peut réduire un petit peu la zone de prédation. Ensuite, il va avoir tendance peut-être effectivement à augmenter sa quête alimentaire. Mais ceci étant, nous, les trois quarts de nos proies sur le site n'étant pas consommées, on va avoir un schéma de jeu, un schéma un petit peu récréatif, comme j'ai dit tout à l'heure, qui va potentiellement se maintenir. La vraie question après, c'est est-ce qu'on a dans le voisinage d'autres chats qui ne seraient pas stérilisés et qui pourraient, à plusieurs, constituer des populations qui, cette fois-ci, échapperaient à leur propriétaire, à tout contrôle, qui pourraient devenir le berceau de maladies, ce qui nuit à tout le monde et aux chats en tout premier lieu, en fait. C'est bien ça le souci.
Gaël nous dit « J'ai adopté un chat SDF qui n'est pas du tout intéressé par la chasse. Est-ce normal ? Cela m'arrive justement, j'habite à la campagne, j'ai un jardin rempli d'oiseaux, j'ai beaucoup de mal à l'y laisser entrer et surprise, il n'est pas tueur. » Claude Béatin.
Ce sont des choses qui...
Ce
sont des choses qui arrivent souvent, qu'on voit souvent. Nous, on a vu des variations individuelles parmi les chats qui ont été suivis sur notre site, donc plusieurs milliers de chats, certains avec des gens avec une assiduité identique dans le suivi. Des chats qui peuvent ramener deux ou trois proies par an, qui ne sont pas chasseurs, dont les propriétaires disent « J'ouvre la porte, le chat rechigne à sortir, il a peur des oiseaux ». Et vraiment des variations individuelles très fortes.
Ah, oui.
Et d'autres qui peuvent ramener une ou deux proies par jour. Donc, les variations individuelles sont tellement fortes chez cet animal, c'est aussi ça qui est passionnant, que du coup, c'est très difficile de lire un comportement homogène.
C'est ça. On a l'habitude de dire, dès qu'on dit une généralité sur le chat, on dit une bêtise, parce qu'il y a autant de, par justement cette double balance chez eux, suivant qu'ils soient plus prédateurs, plus proies, enfin, c'est très compliqué. Et tout de même la partie proie, donc la partie sensibilisation et peur, est très importante chez le chat. Et pour peu qu'ils aient eu une mauvaise expérience à l'extérieur, d'une façon ou d'une autre, ça, de sûr, ils ne vont pas gêner la biodiversité.
Les grands motifs de consultation chez le vétérinaire, c'est double, quoi avec les chats ?
Très simple, chez le chat, ils sont doubles. La malpropreté, en tout premier, et l'agression.
Ouais.
Donc la malpropreté, ça peut être du marquage ou de l'élimination indésirable. Toujours, toujours, dans tous les cas, on fait toujours attention à deux choses. Un, est-ce qu'il n'y a pas une cause physiologique aussi ? Est-ce qu'il y a une cause médicale ? Et deux, est-ce que l'éthogramme, le répertoire comportemental du chat est respecté, en tout cas dans ses grandes lignes. Par exemple, sur l'agressivité, la première réponse qu'on va donner, c'est combien de fois par jour ce chat a-t-il à manger ? Et on va se rendre compte qu'on a des chats... J'ai eu un client l'autre jour, il y a quelques jours, qui a pris un chat, pour lui c'était comme le chien qu'il avait avant. Il a éduqué ce chat exactement dans les mêmes règles, alors sociales, que le chat peut pas comprendre, et dans la même habitude alimentaire, qui était d'être nourri une fois par jour. Pour un chat, être nourri une fois par jour, c'est quelque chose de très compliqué. Suivant les maîtres de l'éthologie féline, c'est 10 à 15 fois par jour l'équivalent d'un petit mulot, justement. Et donc, un chat, ça a besoin de manger très souvent.
Donc, on passe la journée ouvrir le frigo, c'est ça ?
Alors, on passe la journée où on met un distributeur de croquettes. Maintenant, on sait que pas tous les chats sont capables de manger correctement les croquettes. Et si on veut donner de la nourriture humide, il faut en donner souvent. Et arriver, on donnait par exemple 2 ou 3 fois le matin avant de partir, dès qu'on arrive dans l'après-midi, le soir, juste avant de se coucher, pour que le chat ait au moins 5 ou 6 repas.
Séverine demande, est-ce qu'il faut punir les chats quand ils ont fait pipi, par exemple, dans l'appartement ?
Alors, on n'est pas obligé de laisser faire son chat tout ce qu'on veut, mais les punitions physiques, mais aussi le fait de crier après les chats ou quoi, aggrave toujours les problèmes, aggrave toujours, est vraiment une racine importante des états anxieux, donc mauvaise idée.
Nous avons une chatte, dit Sylvie, qui se gratte la joue et le cou de manière compulsive jusqu'au sang. Elle en est défigurée. Quelle peut être l'origine et quel remède pour qu'elle guérisse ?
Alors, le pourrite cervico-facial est compliqué chez le chat. Il a des tas d'origines, une fois de plus physiques et comportementales. Donc, on va chez le vétérinaire et on fait une étude complète du cas du chat pour bien prendre en cause tous les phénomènes physique et organique qu'il peut y avoir, et son équilibre comportemental, mais l'anxiété est un facteur aggravant.
Alors justement, comment on peut traiter ça ? Vous le disiez tout à l'heure, en tant que psychiatre pour animaux, on peut aussi utiliser des molécules, des médicaments.
On utilise toute la...
Ce qui est assez controversé dans votre milieu d'ailleurs, tout le monde n'est pas d'accord avec ça.
Non, tout le monde n'est pas d'accord, mais comme pour les gens, vous savez, des gens qui ne sont pas... Je crois que la psychiatrie vétérinaire, elle souffre de la mauvaise image d'une certaine psychiatrie humaine qui a cherché à normaliser les personnes, de leur dire on va te donner des médicaments pour que tu nous embêtes pas, en gros. Alors que la psychiatrie vétérinaire, elle est là uniquement pour alléger la souffrance. On n'a pas de normes sociales pour nos animaux, on leur demande pas d'être...
Mais on leur donne des antidépresseurs.
Mais quand ils sont en souffrance, par exemple parce qu'ils sont en dépression, parce qu'il y a des états anxieux marqués, eh bien évidemment on va leur donner, on utilise beaucoup d'antidépresseurs à visée anxiolytique et avec des résultats très intéressants. Et on peut garder des animaux qu'on n'aurait pas pu garder. Sinon, vous parliez tout à l'heure de ce petit chat qui agresse. On a des tas de chats qui sont abandonnés ou euthanasiés, alors que si on les traite, on peut les conserver. Au bout d'un certain temps, ils n'ont plus besoin de molécules et ils ont un avenir assez bon.
Donc ça marche bien quand même.
Ah, on a de bons résultats, oui.
Ouais. Fabrice Ouel, vous avez un chien qui vient de vous saluer. Je ne sais même pas si vous l'avez vu en entrant dans le studio. Il est en train de se gratter le dos. Il se roule sur la moquette.
Attendez, je regarde. Je m'éloigne du micro.
Mais oui, il est là, regardez. Il s'appelle Jedi.
C'est un petit griffon, non ?
Voilà.
J'ai rien dit.
Bon, donc vous allez repartir avec lui à Toulon.
Eh oui.
Tout va bien se passer. Et en attendant, Romain Pavis, on pourra participer à la prochaine, justement, expérience scientifique.
Participer à nouveau à partir de 2019, puisqu'on va relancer l'outil.
Le temps que vous décortiquez toutes vos données.
Tout à fait.
Parce que ça a marché, mais au-delà de vos espérances.
Ça a marché au-delà de nos espérances, parce qu'on imaginait le projet assez... un peu polémique, et finalement, les propriétaires de chats, les premiers, se sont mis à participer pour qu'on travaille ensemble sur ce sujet-là.
Très vite, Claude Béata.
Est-ce que vous avez des chiffres sur les chats eux-mêmes proies, eux-mêmes tués ou pas
Eux-mêmes tués, non. Alors, on sait qu'il y a une concurrence qui s'exerce avec le renard, éventuellement, qui va rarement jusqu'à la mort, avec le chien lorsqu'on a des fêtes de maintenance. Voilà.
Merci beaucoup à tous les deux, et bon retour.
Merci beaucoup.